Top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Il est 9h41 sur France Inter et c'est reparti pour un nouvel Instant M.
Vous vous coupez ?
Non, je vous vois.
Vous êtes en direct, allez-y.
Filmer le médecin et filmer la médecine, ce n'est pas la même chose. Du travail des frères Lilti, scénaristes et cinéastes, émane une remarquable tension entre les deux, les hommes et le système. On peut dire la vaillance des uns et la vertu de l'autre, tant mieux. Mais lorsqu'il faut affronter les manquements, alors on se trouve face à une question insupportable. Qui faut-il condamner ? Le soignant ou l'hôpital ? L'humain, ses limites, ses aveuglements, ses mensonges à lui-même et aux autres ? Ou l'institution, ses jeux de pouvoir, ses mensonges ? Ses tabous, ses lacunes. En médecine, la faute est-elle individuelle ou collective ? La morale a-t-elle sa place dans une machine que nous voulons tous continuer de voir fonctionner ? Hippocrate était un film, c'est devenu une série en 8 épisodes. Ça laisse plus de place et plus de temps pour le doute et pour le dilemme.
L'Instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Bonjour Thomas Lilti.
Bonjour.
Médecin, cinéaste, médecin de campagne, première année, Hippocrate, le film, et ce soir, série sur Canal+. J'ai mentionné votre frère, Julien, au scénario.
Donc on va mentionner aussi les deux autres auteurs qui m'ont accompagné, Julien, Anaïs Carpita et Claude Lepape, et Julien Lilti, qui sont les trois auteurs qui m'ont accompagné dans l'écriture.
Série remarquablement écrite et très bien interprétée. Louise Bourgoin, Karim Leclou, Alice Belaïdi, Zachary Chessario. Normalement, dans l'Instant M, on parle jamais des acteurs, mais là, ils nous ont totalement écrabouillés par leur talent. Ils sont d'une extrême justesse, ils sont d'un naturel et d'une sobriété qui leur donne une force incroyable. Voilà, point de départ de Hippocrate, point de départ totalement tiré par les cheveux. Tellement inimaginable qu'on est plongé d'emblée dans la fiction. Imaginez un service dont tous les médecins et une partie du personnel soignant est mis en quarantaine.
Alors pourquoi on lève pas la quarantaine ?
Parce que je peux pas affirmer non plus avec certitude la totale absence de contamination aéro ou manu portée.
C'est pour ça que vous êtes coincé avec votre quarantaine. Personne ne veut prendre le risque de la lever. Et c'est plus confortable d'attendre une certitude.
Ouais. Donc c'est ça que ça veut dire, principe de précaution. C'est des précautions pour eux. Le patient, il est peut-être contagieux, mais peut-être pas. Peut-être que c'est dangereux, mais peut-être pas. Par contre, un service sans soignant, c'est dangereux. La dangerosité, elle est réelle. Je comprends pas leur logique, mais alors pas du tout.
Si tu raisonnes avec la logique...
Voilà, et donc du coup ce sont de jeunes internes, pour certains c'est même leur premier stage, qui tiennent le service tout seuls. Je l'ai dit, c'est une situation de fiction, on ne peut pas croire une seconde que ce soit possible, et pourtant ça vous permet d'arriver à un tableau très réaliste de l'assistance publique. Et ça c'est très intéressant, ce cheminement-là.
Ouais, il y a la volonté, c'est sûr, de faire une vraie série romanesque, d'assumer pleinement... De dire d'entrée, voilà, on est dans le romanesque, on n'est pas dans le documentaire comme souvent on peut l'entendre par rapport à mon travail. Et c'est vrai que cette série donne un sentiment très documentaire. Donc c'était important pour moi d'insister tout de suite sur l'idée qu'on a un point de départ de fiction pure. Si ce n'est que où je suis un tout petit peu en désaccord, c'est que ça peut évidemment arriver. Et c'est déjà arrivé. On, en cas de l'épidémie d'Ebola, on a mis beaucoup de pas en France, mais en Espagne notamment ou aux États-Unis, on a mis beaucoup de personnel soignant en quarantaine. Donc c'était intéressant de travailler sur ce principe de précaution dont on entend parler. Et puis c'est surtout marrant de montrer, quoi, marrant pas tellement, mais de voir des internes à qui on dit voilà, vous allez gérer tout seul pendant 24 heures le service. Et eux, là, n'importe qui à leur place dirait non, nous on n'est pas du tout aptes à faire ça. Et ben eux ils disent oui, ça leur semble normal, on leur demande un truc incroyable et finalement ils disent oui, comme si le jeune médecin était habitué à dire oui quand on lui demande quelque chose qui est au-dessus de ses fonctions.
Pourquoi un service de médecine interne ? À quoi ça sert la médecine interne en termes de scénario ?
Ah ben moi j'adore les services de médecine interne parce qu'ils sont déjà au cœur de l'hôpital et c'est un peu le parent pauvre de l'hôpital.
Il faut expliquer ce que c'est que la médecine interne.
C'est le service où il va y avoir tout type de maladies. On va aussi bien avoir de la gériatrie, c'est-à-dire des personnes âgées, que des maladies de chroniques, on peut avoir des cancers, on peut avoir tout type de maladies ou surtout des gens dont on ne sait pas encore ce qu'ils ont, donc on ne sait pas encore où les mettre, dans quel type de service plus spécialisé.
Moi j'ai posé la question à des confrères, à vous, qu'est-ce que c'est que la médecine interne ? On m'a répondu, ce sont des super docteurs, ce sont des docteurs house.
Ah bah complètement, c'est comme c'est tellement large la médecine interne qu'on a des médecins qui ont une connaissance,
mais c'est génial
un
de voir que
incroyable.
La série Dr House est devenue la référence de la médecine interne, c'était voulu ça aussi de votre part ?
Inconsciemment peut-être, mais c'est vrai que le Dr House, de toute façon, il est, quand on fait une série médicale et même, ou quand on est médecin, Dr House, c'est de toute façon une référence.
On va en reparler. Donc, ce sont deux super médecins généralistes, vous-même ancien médecin généraliste. On sent bien que c'est une médecine qui ne vous lâche pas et qui ne lâche pas votre cinéma. Jacky Berroyer, médecin généraliste, est bourriffé.
Je vais commencer par m'asseoir. Donc, madame, vous êtes née en mai, joli mois de mai. 82. Très belle année, 82. Je me suis marié cette année-là. Et bon, mon mariage a le même âge que vous. C'est joli, non ?
Et là, il y a un face-à-face très explicite, Thomas Lilti dans Hippocrate, entre un spécialiste, un cardiologue. Mon intuition, c'est que vous détestez les cardiologues.
Je les adore.
Entre un spécialiste et un généraliste. C'est même peut-être la seule caricature délibérée que vous vous permettez dans ces 8 épisodes. Le face-à-face entre le généraliste et le spécialiste.
Non, il n'y a pas de volonté de dire... J'ai surtout l'envie de montrer deux médecins à ce moment-là qui arrivent pour essayer d'aider, qui sont donc deux médecins... proches de la retraite, voire déjà à la retraite, qui les seuls qu'on a trouvés pour venir filer un coup de main à ces jeunes internes, et de montrer en effet deux visions de la médecine différentes.
Oui.
Voilà, et c'est pas tellement le fait, c'est pas l'envie de regarder du tout le spécialiste, mais peut-être, hein, vous avez raison.
En même temps, vous le mettez en échec.
Oui, je le mets en échec. Ce que je mets surtout en échec, c'est une médecine. C'est une médecine du passé, assez individualiste, où on a l'impression, qu'on a la science infuse et qu'on sait mieux que les autres et qu'on n'a pas, qu'on travaille pas dans l'échange.
Et puis il y a quelque chose qui était déjà là avant dans votre cinéma, dans Médecins de campagne, et puis dans ce personnage de Jacky Berroyer, c'est-à-dire le médecin généraliste, en gros, qui dit laisser parler un patient, c'est 80% du diagnostic.
Ouais, ça c'est vrai, c'était déjà présent en effet dans le film Médecin de campagne. Oui, moi j'ai toujours appris ça, et moi qui n'avais peut-être pas des grandes, en tant que médecin, des très grandes connaissances, parce que j'avais pas épousé ces études peut-être à 100 000%, et ben ma force, et qui faisait que je m'en tirais à peu près, c'est que c'est 80% d'écoute, c'est ce que je mettais tout là-dedans, je misais tout là-dedans. Et c'est vrai que ça m'a permis de sortir de beaucoup de tracas, parce que j'écoutais les patients. Ça suffit pas d'écouter, mais si on les écoute pas, on est sûr de passer à côté en tout cas.
Alors, du coup, Hippocrate est une sorte de balancier permanent entre l'humain et la technique. On va commencer par la technique. La technique, c'est le jargon. Alors que ce soit celui des avocats, des flics ou des toubibs, on adore ça dans les séries. On adore ça parce que ça devient une espèce de petite musique.
Qu'est-ce qui se passe ? En plus de l'infection, il fait une hémorragie interne.
Ok.
Alors ?
J'ai pas trouvé les formulaires.
Voilà, c'est bon, je m'en occupe. Attention, ça glisse. T'as besoin d'autre chose ?
Claforan et sandostatine.
Ok, ça marche. Laura, tu restes avec eux.
Ok. Bon, on le stabilise en attendant les culots. C'est peut-être une rupture des varices œsophagiennes. J'ai vu ça quand j'étais externe.
On va lui passer 500 cc de polyonique et tu prépares de quoi lui faire un lavage glacé.
Ok.
Allison, tu restes avec moi.
Pour moi, qu'est-ce que je peux faire alors ?
On prend le relais, c'est bon. Tiens, passe-moi une chibulure. Je vais piquer, monsieur Grobert.
Noyé pendant de longues minutes dans un blabla absolument incompréhensible pour le commun des mortels.
Bah,
500 cc de je ne sais pas quoi.
Ouais, de polyonique et autres claforants. Non, c'est vrai.
Mais ça, en même temps, c'est des souvenirs d'enfance. C'est ce qu'on a découvert avec urgence. C'est la spécificité d'un milieu professionnel dans lequel on est plongé à travers une série. Et c'est la fascination et le côté absolument indispensable de tous ces mots que le grand public ne connaît pas et ne comprend pas.
Alors, c'est vraiment important de... J'ai pas cherché à rendre...
À jargonner.
À jargonner. À aucun moment, je me suis dit, ouais, c'est bien, on va jargonner, c'est ce que le public attend. Pas du tout. J'ai montré les scènes telles que ça se passerait dans la réalité. Et c'est vrai que ce vocabulaire, c'est celui de la réalité. Voilà, un antibiotique, ça a un nom. Mais bien, j'ai d'utiliser le nom de l'antibiotique qu'on administre à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à réécouter l'extrait, c'est assez étonnant. C'est vrai que c'est une accumulation de jargon. Et pourtant, je crois qu'à aucun moment, on se perd là-dedans.
Non.
On comprend ce qui se passe, quoi. La situation, en tout cas, elle est claire et net pour tout le monde.
Alors, il y a donc le côté technique et puis il y a le côté humain avec une très très belle question. Par exemple, Johnny Hallyday peut-il sauver une vie ?
À force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro, portant les projecteurs.
comme une croix dans le dos. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre.
Je suis bien content, vous allez l'avoir dans la tête toute la journée, comme tous ceux qui ont vu Hippocrate en avant-première. Soigner un patient, sauver un patient, ça passe aussi par des idées, par des gestes, par des attentions qui n'ont rien à voir avec la médecine, et ça, vous accordez du temps dans Hippocrate, à ça, beaucoup de temps.
Ben oui, parce qu'en fait, c'est encore plus que les médecins, et vraiment, il faut rendre hommage aux soignants en général. Moi, je suis passé par les internes en médecine pour raconter mon histoire, mais j'aimerais parler de tous les soignants, des aides-soignants, des infirmiers, des infirmières, et ils parlent tous de la même chose, c'est du temps non organique, en fait. Et c'est le terme, c'est aussi du jargon,
c'est vrai.
Pour dire tout ce temps qu'on passe à l'hôpital quand on est soignant, a pas vraiment soigner à proprement parler les gens, mais ça passe par, bah voilà, c'est peut-être faire passer une musique à un moment donné qui va aider, ou ça va être d'aider un patient à retrouver quelque chose qu'il a perdu, on verra ça dans un des épisodes. Voilà, c'est tout ce
vous
temps.
Vous voulez dire fouiller toutes les poubelles de l'hôpital pour retrouver un dentier?
Voilà, fouiller les poubelles pour retrouver un dentier.
Ouais.
Et ça prend énormément de temps, mais ça, en fait, c'est peu valorisé, alors que c'est certainement ce qui fait l'essentiel aussi de la pratique soignante de l'hôpital.
Voilà, et ça nécessite d'intégrer un regard sur l'autre qui soit un regard humain et non pas technique, hein, toujours ce balancier dans la série qui est passionnant. Et d'ailleurs, cette question du regard sur l'autre, regarde-t-on froidement un corps ou regarde-t-on un être humain, finalement, qui a une vie très complète, que pose la médecine, vous la rendez encore plus cruciale en la retournant vers le médecin lui-même. Pour la deuxième fois, hein, après médecin de campagne, il y a un personnage de médecin malade et de médecin qui nie sa maladie, de médecin qui va contre son propre corps.
Ça va pas du tout.
Si, ça va.
Non. Vous vous êtes vraiment reposé? Je vous mets en arrêt.
Non, merci.
Mais vous êtes affaibli, vous comprenez? Stop. Vous ne retournez pas à l'hôpital, vous n'avez pas le droit de travailler.
Vous m'aviez dit que 10% des gens reprenaient du normal après l'opération.
Arrêtez-vous, sinon vous ne ferez même pas partie de ces 10%.
Quand je disais que vous détestiez les cardiologues, celui-ci aussi, il est sec comme...
Ah non, moi je l'aime plutôt bien.
Ah,
Ouais, il a la sécheresse, l'autorité nécessaire parfois face à un patient peu compliant, quoi, récalcitrant.
Mais le médecin qui nie son propre corps, c'est un sujet absolument passionnant.
Oui, c'est alors si on résume, des fois on résume ça un peu à le cordonnier le plus mal chaussé, mais c'est autre chose. Vous avez raison, ça va plus loin. C'est d'une certaine manière, c'est il y a chez le médecin l'impression, je crois souvent comme une forme de déni de son corps et donc potentiellement de sa maladie parce qu'il est tellement projeté à tourner vers les autres. Quand je dis les médecins, c'est vrai.
Alors
pour
c'est
les
quoi? C'est un
aussi,
fantasme de toute puissance ou en même temps c'est une forme de cécité à quelque chose qui est de l'ordre de l'humain et de l'écoute de soi.
C'est sûrement les deux. Il y a un tel travail de l'écoute de l'autre, de besoin d'essayer d'être en empathie avec l'autre, de se projeter dans l'autre, qu'il y a une forme de cécité, vous avez raison. Il y a peut-être aussi, il ne faut pas le nier, il ne faut pas être que angélique, il y a aussi peut-être un petit sentiment de surpuissance, de domination, on ne peut pas être malade quand on est médecin d'une certaine manière. C'est nous qui avons le savoir.
Comment ça va avec votre père, sinon?
Je l'adore, ça va toujours aussi bien.
Je dis ça
bien.
Parce que non seulement il y a trois de vos films qui mettent en scène des professeurs de médecine qui ne sont pas des modèles, tout au contraire, qui sont des contre-modèles, mais dans ces mêmes trois films, ceux qui portent les regards à la fois les plus dévastés et les plus dévastateurs sur ces personnages de professeurs, de grands médecins, ce sont des fils d'eux. Voilà quelque chose qui revient encore dans Hippocrate, la série.
Ouais, mon père est médecin et c'est vrai que c'est une relation qui m'a toujours très très prégnante et très très présente dans ma vie. Donc j'en parle, je crois. Mais mon père n'a jamais été un grand professeur. C'est pas un mandarin. C'est un très bon médecin. Il a été un très bon médecin, je crois. Mais
donc ce qui est très intéressant dans ce que vous en faites vous dans vos fictions, c'est qu'il y a toujours deux figures d'autorité en une. Le professeur, c'est à la fois un sommet de connaissances et en même temps un chef de service. Et là, il se trouve que en plus, c'est le père. Où c'est la mère. Donc voilà, vous chargez cette figure de manière extrêmement lourde et relativement négative en plus.
Oui, alors après, Je crois aussi, il y a plein de choses que j'essaie de raconter à travers cette relation. Je racontais aussi quand même la reproduction aussi à l'hôpital la plupart des médecins sont des enfants de médecins. Donc, ça questionne. Donc, c'est pas uniquement ma propre histoire que je projette là-dedans. C'est aussi l'histoire de beaucoup de jeunes médecins qui sont eux-mêmes des enfants de médecins et qui, à un moment donné, peuvent se poser la question de leur légitimité. Et je dis souvent que l'hôpital, c'est le reflet, évidemment, de la société dans laquelle on vit. Mais ce qu'on y vit à l'hôpital, c'est ce que tout le monde vit dans la vie de tous les jours. Le problème de la légitimité dans tout
le
métier.
Et la méritocratie, puisque le fils d'eux est sans cesse dans vos fictions confronté aux FFI faisant fonction d'interne. Là, c'est un Albanais, c'est le remarquable Karim Leclou. Mais c'était le cas déjà précédemment dans Hippocrate.
C'est vrai, mais parce que la question de la légitimité quand on est médecin ou quand on va devenir médecin, c'est quand même incroyable. Si d'un seul coup, on se dit « mais en fait, je suis nul », quand on est médecin, on se dit ça d'un seul coup, c'est terrifiant quand même. C'est un vertige total de se dire on se retrouve face à des malades et on sait qu'on est mauvais, qu'on n'est pas compétent. Moi, c'est quelque chose qui m'a souvent qui a été très présent dans ma vie.
Et puis il y a toute cette histoire de la série médicale américaine où la méritocratie, c'est-à-dire il y a deux meilleurs copains, un noir, un blanc, un noir qui est passionné, qui travaille plus que le blanc, et lui, il sera chirurgien parce qu'il a plus travaillé. Ça, c'est extrêmement américain et ça a traversé toute l'histoire de nos séries médicales vues en France. Depuis Urgence, Dr House, Shonda Rhimes et Grey's Anatomy, la méritocratie à l'hôpital.
Oui, c'est surtout dans l'hôpital, quoi, projeté dans l'hôpital français avec notre structure, quand on sait que la grande majorité des médecins qui travaillent à l'hôpital et qui font les heures de nuit, les heures les plus difficiles, sont des médecins à diplôme étranger parce qu'on manque de médecins à l'hôpital français. Obligatoirement, on ne peut pas passer à côté de ce sujet. Et cette méritocratie, c'est aussi un sentiment d'injustice énorme pour énormément de médecins qui
j'aimerais bien un dernier mot sur votre générique qui est extrêmement vintage, qui se démarque totalement du générique des séries, extrêmement créatif, léché, très esthétisant, très mouvant, très graphique depuis 10 ans. Des images fixes.
Ouais, c'était l'envie de se dire la médecine, l'hôpital, il peut changer. Ouais. Le soin, ça restera toujours la même chose. C'est une personne face à une autre, un soignant face à un soigné. Et donc j'ai essayé en 45 secondes de montrer des soignants et des soignés à travers les époques. Et c'est ça la volonté.
Donc
de
ça donne une sorte de roman photo.
Exactement.
Extrêmement fixe.
Voilà.
Qu'on voit plus du tout justement dans la série d'aujourd'hui.
Bah ça, je sais pas exactement quelle impression ça donne, mais en tout cas voilà, la volonté c'était de dire voilà, ma série ça parle d'une chose surtout, c'est cet échange entre le soignant et le soigné et comment l'échange, il n'est pas unilatéral, évidemment, puisque c'est un échange. Donc le soignant, il reçoit quelque chose du
Merci
soigné.
Merci beaucoup, Thomas Lilti. Hippocrate commence ce soir sur Canal+. Et si vous voulez entendre Louise Bourgoin en chair et en os, ce sera tout à l'heure. Elle sera l'invitée de Nagui et c'est l'une de vos remarquables comédiennes. Bonjour Ali Rebéi.
Bonjour Sonia de Villers.
Tout va bien ? Pois chiche et pilpil au menu.
Oui, on s'intéresse aux bienfaits des légumineuses et des céréales.
Voilà.
Voilà, si vous aimez les pois chiches, les lentilles, le soja, les pois cassés, les haricots tarbés, n'hésitez pas à nous faire partager votre passion, vos recettes. Si vous n'aimez pas ça, appelez-nous également, 01 45 24 7000.
Vous avez des mauvais souvenirs de cantine ou un truc dans le genre.